Mais on ne peut pas tout faire, quoi. On a des moments dans la vie où je courais le monde, il y a des moments où je courais les volcans, des moments où j'aimais les grands voyages, des moments où toutes sortes de trucs, quoi. Comme le Vercors, pour moi, c'est une espèce d'entité. La guerre sur le front des Alpes, c'est un autre morceau.
C'est une grande aventure, un engagement, c'est une grande aventure. Parce que quand on s'engage et qu'on sait qu'on joue sa peau, son avenir, sa famille, tout, quoi, on joue tout. C'est quand même quelque chose qui vous marque, peut-être, qui vous donne une autre vision, beaucoup plus nuancée des choses de la vie.
C'est comme une espèce de mosaïque d'une vie. Qu'est-ce que c'est une vie, quoi? C'est un empilement de trucs, de souvenirs, d'émotions, d'espoir quelquefois déçu, d'espoir réussi, il y a de tout, quoi.
Bonjour, nous vous proposons ce jour une émission consacrée à Pierre Bichet, peintre imagier comme il aimait à se dénommer lui-même. Dans cet entretien qu'il a bien voulu nous accorder en 1999, nous avons évoqué ensemble une période de sa vie, de sa jeunesse, au cours de laquelle il s'est impliqué dans la résistance à partir d'octobre 1943. Pierre Bichet est né le 29 novembre 1922, il a donc 18 ans en fin 1940 et il est décédé le 18 février 2008. Déjà à l'âge de l'adolescence, Pierre Bichet voulait devenir artiste peintre et avait engagé sa formation dans cette voie. Mais en mars 1943, l'instauration du STO et sa réaction à celui-ci allait modifier son destin pour 2 années. Et c'est ce parcours que nous vous proposons de rencontrer à travers ses propos enregistrés en 1999. De jeune homme de bonne famille bien intégré et sécurisé, il va devenir 18 mois durant, comme il le dit lui-même, un paumé, un sans-papier, un clandestin, livré à lui-même sans ressources, et cherchant en permanence à se dissimuler à la capture par les Allemands ou la police française. Au bout de 6 mois, un peu contraint par les événements, il va intégrer un groupe de maquisards du Vercors, groupe qui finira massacré 4 mois après. Ses motivations et convictions de lutte étaient patriotiques et peu politiques. Son parcours va donc nous permettre de ressentir un peu ce qu'il pouvait en être pour un jeune projeté ainsi dans une situation qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il a dû assumer comme il pouvait. C'est une expérience de vie assez particulière, même si elle fut le fait de beaucoup de jeunes gens de cette période, qu'il va relater avec une grande justesse de ton.
Munich en 38, ça évoque quelque chose? Vous l'avez vécu? Enfin,
38, j'avais 16 ans, moi. J'avais 16 ans, mais je me souviens quand même Chamberlain, tout ça, quand il est rentré avec Daladier. Moi, je sais pas, j'avais un sentiment. Peut-être que j'ai été aussi animé par cette espèce de sentiment patriotique, parce que j'avais des copains qui étaient très patriotes et provocateurs. J'ai un copain, Charles Girardot, qui est mort en déportation à Buchenwald, en tentant de s'évader d'ailleurs. Et par exemple, j'étais encore au lycée en première, et ben, je marchais avec lui sur un trottoir, c'est des trucs de cons, ça, des trucs de gamins, d'adolescents, quoi. On marchait sur un trottoir, il y avait deux Allemands, deux pauvres biffins allemands, là, qui marchaient avec leur calot, là. Il dit, on leur rentre dedans. Mais je dis, mais pourquoi? Parce qu'ils voudraient qu'on se desserre pour passer. Eh bien, on ne se desserrera pas. Résultat, on est rentré dans les deux Allemands qui nous ont accrochés, qui en ont appelé trois autres, qui nous ont foutu deux paires de bottes, puis qui ont failli nous étrangler. J'étais complètement ridicule.
Peut-être que ça commence comme ça aussi.
Mais oui, ça commence comme ça. Et peut-être y a-t-il un peu de romantisme, et puis un peu le... Peut-être que... C'est peut-être le même instinct qui rend les jeunes voyous maintenant. Au lieu de les rendre résistants, ils sont voyous, quoi. C'est peut-être ce goût du risque. Mais je perdais pas de vue que je faisais mes études aux Beaux-Arts à Paris, donc je voulais être peintre, alors il fallait que ça passe, tout ça. Je pourrais jamais retourner à Paris, je pourrais jamais rentrer chez moi, je pourrais jamais voir ma mère, je pourrais... Mais il y avait une fraternité telle que j'étais heureux, très heureux. Je m'avais pas élevé dans le culte de mon pays. Si mes parents m'avaient pas élevé dans l'illusion que l'armée française était invincible, que l'armée française, nous, on trouvait, parce qu'on avait 20 ans et qu'on connaissait pas les circonstances exactes et la puissance des Allemands, on se disait que on pensait, nous, que l'armée française avait été lâche, qu'elle avait perdu la guerre, que l'honneur français était foutu, qu'il fallait faire quelque chose. Ça a été, moi, terrifiant pour moi, 40, sur le plan psychologique. Je comprenais pas, c'est pas possible, puis en plus, j'ai participé à l'exode avec ma famille, mais je disais, mais pourquoi on se sauve devant l'ennemi, quoi, enfin, je sais pas.
Vous avez participé à l'exode?
Ben, je suis parti à l'exode parce que mon père et ma mère m'ont embarqué avec ma sœur, mon petit frère, etc., et ma petite sœur, on est parti pour le sud parce que qu'ils allaient nous couper la tête, nous couper les mains, je sais pas quoi, mais des trucs. Et après, mon pays, en plus, a été... le Jura était parti de la zone interdite. Il était même, en principe, j'ai lu ça dans plusieurs revues, il y avait un projet d'Hitler d'annexion de la Franche-Comté pour rattacher avec l'Alsace-Lorraine et tout ça, etc. Il était évident que moi j'aurais eu intérêt à aller me planquer en Suisse. Et en Suisse, j'allais pas être maquisard, j'allais être dans un camp. Et puis moi je pouvais pas imaginer dans le Vercors que ça serait un jour un nom chargé d'histoire terrible et d'héroïsme. Il n'y avait pas eu le moindre accrochage quand j'y étais. On était les premiers à prendre les Allemands sur la gueule, on a compris tout de suite. Hein. La division Flaum, c'était pas des temps.
C'était quoi cette division Flaum?
C'était une division qui était faite en grande partie d'Autrichiens. C'est celle qui a anéanti les Glières, qui a anéanti le Vercors, qui a anéanti tout. C'était une division de répression contre les... au moment où les Allemands étaient sur les nerfs à cause du débarquement, quoi.
Et puis il y a cette période du Vercors, si vous avez envie d'en parler.
Volontiers, maintenant je fais pas d'impasse là-dessus.
Mais comment ça s'est passé pour vous, cette période où vous vous êtes trouvé engagé là-bas?
Ben, il faudrait que je vous raconte, alors.
Ben oui, on peut. Ouais.
Non, moi j'étais... c'est un peu compliqué. C'est très difficile, c'est une époque où c'est assez difficile d'en parler, parce que ça paraît aux gens incohérent.
Et en même temps,
mais moi j'avais 20 ans en octobre 42. Bon, c'est pas difficile, en novembre 42, j'avais 20 ans. Et donc, je suis tombé sur le coup du... Je venais d'entrer à l'école des Beaux-Arts à Paris, et puis je suis venu en faire un tour dans mon patelin, en venant de Paris, là, en mars 43. Ouais. Or, il y a eu la loi du STO en février 43 qui nous obligeait, les gars de mon âge, à partir en Allemagne. Et on a monté un petit réseau, activement, en deux jours, un réseau de réfractaires au STO. Ben, c'était dans un jardin fermé, clos par de hauts murs, qui étaient accessibles parce que c'était un centre, une espèce d'auberge de jeunesse, donc on pouvait se croire tranquille le soir, comme il y avait... Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière dans les rues, c'était extinction des feux.
Mais c'était l'auberge de jeunesse qui est
où elle est maintenant, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jardin. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, moi je n'ai pas pu vérifier la tête de tous les gars qui y étaient. D'ailleurs, j'étais un des quelques participants. sans bien savoir, c'était impromptu, improvisé, parce qu'il fallait prendre une décision rapide.
Ouais. Vous m'aviez dit, vous aviez commencé une phrase, il y en a un qui, je me demande s'il n'y en a pas un qui...
allez savoir. Ouais. Qui saura jamais ? Les dénonciations pendant l'occupation, qui saura jamais ? Si les lettres de dénonciation n'avaient pas disparu de la Gestapo ici, on saurait qui dénonçait, mais... Et encore, fallait se méfier un peu de tout le monde, quoi. C'était quand même... Le nazisme a eu, outre la violence, la force et la destruction, une idéologie folle, il a eu aussi le fait qu'il a pourri en partie une société... Oui. Il y avait beaucoup de salauds qui en profitaient des innocents. Et j'ai commis... On a fait une réunion clandestine dans la nuit, et puis... Je ne sais pas, je ne peux pas dire qui. Comment les Allemands, c'est arrivé aux oreilles des Allemands. Bref, moi j'ai commis l'imprudence d'expliquer certains trucs aux gens dans la nuit. C'était dans un jardin secret, c'était incroyable.
C'était à Pontarlier ?
Oui, oui, oui. Et puis alors, j'étais en vacances pour quelques jours. J'ai dit premièrement, il faut dégager de votre pays, parce que les gens savent quel âge vous avez. Hein, il faut partir dans un autre coin. Et bon, et ceux qui voudront passer par Paris, ils peuvent... J'avais mon copain Maurice qui était étudiant ingénieur à Paris à ce moment-là, qui était avec moi, du même âge. On a dit, vous pouvez venir, on peut servir de relais, vous pouvez venir chez lui ou chez moi. Hein, je vous le dis qu'à vous, hein, j'habite à tel endroit à Paris, bon, j'ai donné mon adresse, quoi. Et puis il me connaissait les gars. Le gars qui nous a donné, je ne saurais jamais qui c'est, mais...
Il y en avait un dans la bande qui a tout raconté.
Mais non, c'était pas un... Oui, parce que dans la nuit, on n'a pas vu qui venait nous voir et nous renseigner. C'était Baptiste. Je ne connaissais pas les prudences qu'il fallait dans la résistance.
Et puis à l'époque,
donc j'ai été arrêté le lendemain. Le lendemain, j'ai été arrêté par les Allemands. J'ai été incarcéré ici à la prison de Pontarlier, qui existait encore à ce moment-là.
Les Allemands ou la police française ?
Non, il n'y avait pas de police française, c'était zone interdite ici. Il n'y avait que les Allemands. Et puis j'ai été interrogé pendant 8-10 jours par les gars du Sicherheitsdienst, c'est-à-dire le service de renseignement, la Gestapo, quoi, de Besançon. Ici, il y avait une commandanture avec des troupes, mais il n'y avait pas de police. Et puis ils m'ont foutu en taule ici, bon. Alors je suis resté... 15 jours, 3 semaines en cellule, d'abord seul, et après j'ai eu un espèce de gars auquel j'ai peut-être parlé, il m'a demandé si c'était pas un mouton, bon...
Maltraité aussi ?
Mais ça, je sais pas, faut pas exagérer, entre deux paires de baffes et puis des tortures, il y a une nuance quand même, je vais pas me glorifier d'avoir été torturé. Bon, alors, il y a des choses qu'il faut pas faire, par exemple... des illusions qu'on peut avoir. Quand j'étais interrogé ici par le Sicherheitsdienst, c'est-à-dire les services de renseignement allemands, ils essayaient de me faire parler. Bon, d'accord, mais j'ai pas été torturé. Tout le monde n'a pas été torturé, tant mieux pour moi. Mais un jour, est entré dans le bureau où les gars m'interrogeaient. Moi, j'étais les mains sur la tête, assis sur un tabouret depuis 2 heures. Et je m'obstinais à répéter les mêmes choses et à dire que je connaissais personne dans cette réunion, etc. Est entré un Allemand, un officier allemand, avec une casquette d'officier des troupes de montagne, avec l'Edelweiss sur le côté. Alors moi j'étais très skieur et très montagnard et tout. Et je baragouinais des fois 2-3 mots d'allemand de lycée, quoi, un allemand de collégien. Alors, l'officier du service de renseignement, il voyait que je regardais l'Autrichien. Et il dit, er ist ein Gebirgsjägerofficier. Österreichischen Gebirgsjägerofficier. C'est un Autrichien des troupes de montagne. Le mot Autrichien, immédiatement, a fait clic chez moi, hein. J'ai dit, les Autrichiens, ils ont été envahis par les Allemands. C'est des malgré eux. Moi, je croyais que c'était des malgré eux, comme tout le monde, quoi. Alors, je regardais ces grands mecs qui me regardaient, et je lui ai fait, mais le soupçon d'un espèce de clin d'œil, de complicité, qu'est-ce que j'avais fait là? Il m'a foutu sur la gueule, mon vieux. Fallait pas le faire, c'était farouchement. Et après, j'ai appris que les Autrichiens étaient pro-nazis. La grande majorité, une énorme majorité. Alors, je vivais d'illusions, comme ça. Bon. Ouais. Quand c'est la guerre, on peut pas... faut pas s'imaginer comme des gamins que quand l'ennemi arrive pour te flinguer, il suffit de lui dire, allez, on est des frères, hein, on arrête. Hein, bon. Ma chance a été incroyable. C'est ça ce qui est très difficile à expliquer à des gens d'aujourd'hui. Il y avait quand même encore, sous Vichy, même en zone interdite ici, il y avait un tribunal de police ou petite correctionnelle, quoi. Et il y avait un juge d'instance ici. Il y avait un président de tribunal qui n'avait plus aucun rôle à jouer, mais qui a eu l'intelligence, parce que, bon, on connaissait ma famille dans la ville, les gens se sont un peu inquiétés. Il est allé voir les Allemands, il leur a dit, la loi du STO, ce sont des gens, c'est vrai, ils sont coupables, responsables, ils ont enfreint, non seulement ils ont enfreint, mais gravement, la loi du STO, qui est une loi de Vichy. C'est une loi de Vichy. Donc, la France se doit de les juger également, et on voulait, est-ce que vous pouvez nous les confier pour un jugement, on vous les redonnera après. Et je suis passé au tribunal, il n'y avait personne, il n'y avait que des officiers allemands, des officiers de la gendarmerie française de Vichy, et puis le président du tribunal en robe. Et j'ai pris une branlée parce que j'ai pris une branlée par les Allemands verbales, plus une branlée par le président du tribunal. Moi je détestais ce con, dit salaud, collabo, pourri. Et il m'a fait enfermer dans une piole au palais de justice. Donc les Allemands, il y a eu un accord avec eux, ils ont signé des papiers, je ne sais pas quoi. Et ils devaient me remettre à nouveau entre les mains des Allemands après. Et puis à minuit, il est revenu. J'étais enfermé dans une piole au palais de justice ici. Et puis à minuit, il est venu, il m'a dit, bon, moi je ne vais pas m'occuper de vous deux fois. Hein. Vous allez vous barrer, demain, je veux que vous soyez demain matin à au moins 100 km d'ici. Et ne revenez jamais. Je ne sais pas comment ça va tourner pour moi, mais c'est bien, quoi. Il est survivant, d'ailleurs, je le vois de temps en temps. Alors, je me suis retrouvé dans un état de dénuement total. Je n'avais pas un sou, je sortais de tôle, quoi, enfin, je sortais de cellule. Je n'avais pas un sou, je n'avais pas de papier, aucun papier, rien, plus d'identité, pas d'avenir.
Est-ce que vous avez pris les papiers, non?
Non, non. Ben, en prison, je n'avais rien.
Mais votre famille était à Pontarlier.
Ah, mais je suis même pas passé. Il m'a dit, ne repassez pas chez vous.
Ah oui.
Je lui ai dit, il faut que je prenne mon vélo. Il est dans une remise. Je vais avec vous la nuit, au cas où il y aurait une patrouille, etc. allemande. Bon, il m'a emmené, j'ai pris dans la nuit à 1h du matin mon vélo. 2 heures après, j'étais à Morteau chez une de mes tantes, où je suis resté à peine 20 minutes. Le temps de lui dire, demain, tu téléphoneras à ma mère en disant que je suis vivant. Je sais pas où je vais. Je sais pas où j'allais. Et je suis parti immédiatement vers le sud parce que je me disais, en zone sud, ça va être, je peux me refaire une santé. Ici, c'est trop risqué, quoi.
Vous n'avez pas eu la tentation de la Suisse ou la connaissez-vous?
J'aurais pu, mais elle était tellement surveillée par les douaniers allemands que là, j'en sortais plus là. Alors.
Malgré votre connaissance du terrain.
Oui, mais mes connaissances du terrain, quand on n'a rien, que j'ai pas bouffé, que tout ça, je voulais pas rester dans le coin. Il m'a dit, il faut partir loin. Bon.
Et les autres, parce que vous étiez considéré comme le meneur, en somme. Les autres, ils ont eu le même sort.
Oh ben, il y en a qui ont été déportés, il y a eu 2-3 gars arrêtés. On a été 4 d'arrêtés le premier jour, parce que les autres, ils ne savaient pas qui c'était. Ils n'avaient pas donné leur nom ni leur adresse. Je suis passé par des cheminements, comme on dit. Je suis pas arrivé tout droit à ma base. Je cherchais un bled où je pourrais me planquer, quoi, où les Allemands ne trouveraient pas, parce que d'une part j'étais réfractaire, donc j'étais mobilisable pour l'Allemagne, deuxièmement j'étais réfractaire, donc j'étais arrêtable, si l'on peut dire, incarcérable, et puis troisièmement j'avais pas de papier, j'avais rien. Je n'avais rien.
Vous aviez pris le boulot de bouchon assez vite, quoi, finalement.
J'ai cherché autre chose, et je pensais même rester à Grenoble. Mais Grenoble me paraissait la nasse où il y a des rafles. Alors, sans papier, sans rien, première rafle, je ne me faisais pas, avec ma gueule de 20 ans, j'étais sûr d'y passer. Et j'ai rencontré des copains qui m'ont proposé d'entrer dans un espèce de réseau de résistance, sans me dire exactement quoi, mais c'était des gars de mon pays, dont Michel Bavrel.
J'ai un copain qui a été fusillé à Lyon. Mais
lui, c'était...
Michel Bavrel, c'est un Pontisalien qui était à Grenoble. Je l'ai rencontré à Grenoble au moment où je cherchais mon emploi.
Mais d'autre part, il ne faut pas oublier que nous, on était des recherchés. On était des hors-la-loi. Qu'est-ce qui peut devenir hors-la-loi? Il ne peut que s'armer et se défendre contre... Qui veut l'emmerder, quoi? Quoi qu'il en soit, on était condamnés. On était condamnés à résister aussi, parce que sinon, si on se faisait prendre, on était foutus. J'étais foutu avec les antécédents des gens de la Toul. Deuxièmement, mon engagement dans le maquis me conduisait à être immédiatement déporté ou exécuté, quoi. Donc, il fallait essayer de vivre sur un bout de terre libre, et un homme libre. C'était des tout petits bouts de terre libre, hein, ça n'y en avait pas beaucoup.
Vous aviez, à ce moment-là, de la fin de la guerre, quoi. Si vous essayez de vous replonger pendant que vous étiez à Melval, comment...
C'était lointain, attention. Janvier 44, vous ne croyez pas le débarquement, hein.
Juste bien imaginer que ça allait venir, quoi.
Mais on disait que les Allemands, un jour, seraient vaincus. Hein, que... C'était pas possible. Puis deuxièmement... C'était la haine. Même on aurait dit ça durera 5 ans, bon...
J'allais dire, pourquoi c'était la haine? On
attendait quand même le débarquement.
Vous aviez, enfin je suis un peu provocateur là, vous aviez pas trop souffert des Allemands, vous?
Mais pas du tout. Donc j'étais d'une famille où... Mais la haine, la honte?
La honte.
Moi j'avais honte des adultes, j'avais honte de mon père. Il m'avait fait chier avec la guerre 14-18. Et le voilà qui gueulait même pas contre les Allemands. C'était alors que on avait été
jamais
été
de Michi, quoi, finalement, de ce régime qui s'accommodait.
La honte d'un peuple abattu sans combattre.
Mais ce qu'on aurait pu faire.
L'armée française, pour moi, c'était un truc fantastique. Alors je me disais, ben, les partisans, c'est quand même des gars qui sauvent l'honneur, quoi. Et moi, la chanson de qui a été faite par mon ami Kim, il était poète, il avait fait l'hymne de Malval, quoi. Nous descendrons du cœur de la montagne, hors de chez nous, bouter nos occupants, et retrouver nos villes de campagne, sans Italiens, miliciens, ni Allemands. C'était même pas que les Allemands, c'était... On n'allait pas se laisser quand même, on se disait, merde, on a 20 ans, puis on est déjà des esclaves de quelque chose.
Mais vous n'aviez pas le sentiment de quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire qu'est-ce que la France...
Moi je trouvais ça fabuleux qu'on me donne une arme, une mitraillette, et que je pouvais tuer un Allemand. Je trouvais ça formidable. J'avais une arme, j'avais deux grenades, j'avais une mitraillette, deux grenades, quatre chargeurs, tout le truc, quoi. Je trouvais ça formidable, j'étais un homme libre. Et c'est peut-être du romantisme, c'est peut-être... Combien de gars sont morts par pur romantisme ou... Comme ça, c'est un dalle, quoi. Alors, donc, je suis parti à ce moment-là, je suis parti à Lyon, à Grenoble... toujours un peu clandestin, sans papier. Et alors j'ai rencontré des gars un peu douteux à Grenoble qui m'ont dit « Oh ben nous on peut te planquer, tout ça », mais c'était des gars que je connaissais un peu, que j'avais vu ici, qui étaient originaires d'ici, je ne me rappelle plus exactement. Et puis j'ai cherché l'endroit où je pouvais sauver ma peau pour un paumé, quoi, un Trump, comme disent les Américains, quoi, un Trump total, quoi. Alors j'ai trouvé un coin dans le Vercors, à Malval, qui était le lieu. J'ai cherché du travail, j'ai retrouvé d'abord, je me suis fait un copain que j'ai retrouvé qui était originaire de la région ici, et avec lui on a cherché du boulot, et on a trouvé du boulot dans ce petit village de Malval. Quand j'ai vu où c'était dans le Vercors, j'ai dit, écoute, là, la guerre ne viendra jamais. C'est le seul coin où la guerre ne viendra jamais.
Les Allemands n'y étaient pas?
Ah, pas du tout. C'était Saint-Patelin, il y avait 25 habitants, il y avait 30 habitants, et puis... Faut passer par des gorges impossibles, ils n'étaient pas partout. Alors là, j'ai travaillé dans une petite entreprise appelée Mesmer. J'étais bûcheron et charbonnier. Je faisais du charbon de bois. J'étais bûcheron. Et puis je me disais, ben je vais attendre, et puis tout va aller bien, quoi. Un jour la guerre finira, j'étais quand même jeune et plein d'espoir. Et puis j'étais bien dans ce patelin, je connaissais tout le monde et tout. Et c'est... puis un jour j'ai vu arriver...
Le gars qui vous embauchait, il connaissait votre situation qui? Le gars qui vous avait embauché, qui vous êtes...
Ah oui, il faisait travailler des réfractaires du STO, il les payait presque pas comme ça. C'est un type bien, je ne sais jamais qui c'est, je ne ferai jamais qui se passe pas. Et j'ai vu arriver, là, un beau jour, je me suis réveillé... Je logeais dans le grenier de la petite école du village, j'étais copain avec l'institutrice, tout ça. Elle savait mon nom, enfin bon. Et puis alors, comment vous dire, c'est extraordinaire. Et puis un jour, j'ai vu arriver dans le patelin une bande de 30-40 petits mecs, 20 à 30 peut-être. C'était le premier maquis important du Vercors qui avait été créé par l'abbé Pierre avec Gilbert, avec le capitaine Gilbert, là. Alors, moi j'étais enchanté, quoi. C'était tous les gars de mon âge, des intellectuels, parce que j'avais réussi à retrouver de la peinture, des aquarelles, des pinceaux. Quand il y avait quelqu'un descendait à Grenoble, je faisais des petites caricatures, comme ça, des petits trucs. Vous
regardez des dessins de cette époque-là ?
J'ai retrouvé 40 ans après, 30 ans après. C'est un petit patelin perdu là-haut qui était inconnu, quoi. C'est un patelin, il n'y avait personne.
Vous étiez quand même à la merci d'une descente de, sur indication des collabos, non, d'une descente d'une patrouille qui vient de ramasser tout le monde.
Alors j'avais un chien, je ne me rappelle plus où j'avais ramassé, mon chien Rex, voilà quand j'étais bûcheron. Et puis ça, c'est les premiers maquisards, que je connais encore maintenant, ceux qui ont survécu. Et puis c'était. Alors c'était des patrouilles que j'ai fait. J'avais réussi à trouver un petit appareil photo là-bas. Puis j'avais un copain qui me descendait mes pellicules à Saint-Marcelin, donc je faisais des photos du patelin comme ça.
Ouais.
Et puis après, ben, j'ai intégré. Alors voilà. Là, j'avais déjà intégré ma clé, mais c'était là. Je suis avec des filles du pays, et puis des vieux copains. Il y en a un qui vient de se tuer en voiture, Georges, là. Et puis alors, voilà les. Mon clébard aussi. Et puis alors, voilà les premiers maquisards dont j'ai fait la connaissance, et voilà là.
Et puis j'ai intégré. Tous les STO, pratiquement, ces jeunes-là.
Oh, non, il y avait tout. Il y avait des juifs, il y avait tout. Et alors, on a tous intégré là-dedans.
Vous n'aviez pas de nom de guerre.
Non, parce que pour une raison absolument simple, quand le maquis est arrivé, moi j'étais encore bichon avant d'entrer.
Non.
Et il m'appelait Bichet, mais il savait que j'étais un réfractaire sans papier. Et il pensait que c'était un surnom que je m'étais donné. Alors je n'avais pas l'utilité de changer contre un autre surnom, quoi. Si bien qu'il m'appelait Bichet comme Bibiche, quoi, des trucs comme ça. Moi je m'en foutais parce que.
Souvent, c'est
ils m'avaient connu sous mon nom, j'allais pas leur dire, bon, à partir de demain, je m'appelle Alexandre.
Non, c'était par rapport à la clandestinité, non, que c'était utile.
Ben, c'était, oui, mais enfin, comme il n'y a pas de bichet dans le Dauphiné, que j'avais pas de papier, il aurait fallu que j'avoue d'où je venais, mais enfin, à ce moment-là, j'aurais probablement été flingué avant.
Alors, en lisant le livre, bien sûr, il y a des tas de choses intéressantes, j'ai appris beaucoup de choses, et puis il y a quelques petites questions qui viennent, quoi. Alors, je sais pas si c'est des inexactitudes de leur part, ou moi qui n'ai pas bien compris.
Le père Parsu qui a fait ce bouquin est le curé de Malval et ça l'a assez bouleversé l'histoire de ce village et personne n'en a écrit la chronique pour beaucoup de raisons, pour beaucoup de trucs. Et il s'est mis en tête de. Mais il a failli être abandonné par tous les maquisards tellement il était pointilleux. Il voulait des recoupements, il ne voulait pas écrire la moindre chose de traviole, de moindre truc. Ouais,
souci d'historien, quoi.
Souci d'historien, non, mais il a quand même. Puis pour nous, au moins, il reste un souvenir de Malval qui est écrit, quoi. Ouais. Et où il n'y a pas ni exagération, ni fantasme, ni. Il y a peu de points d'interrogation en réalité. On sait bien, je connaissais tous les gens, quoi, tous les gars.
Oui, d'autant plus que les gens, ils ne tenaient pas des archives en général.
Mais
quand
non.
On est clandestin, on
non,
garde pas
non,
de
non, mais quand même, par exemple, moi, j'étais pas savoyard, j'étais pas de l'Isère, j'étais pas. Eh bien, il me prenait avec suspicion, comme ça. Hein, mais il me disait, mais moi, vous me dites que vous avez signé un papier pour entrer dans la résistance. Ça ne se faisait pas. J'ai dit, je suis désolé, j'ai signé un papier en octobre 1943. J'ai signé un papier à Gilbert. Je ne savais pas qu'ils appelaient Westman à ce moment-là. Au capitaine Gilbert, j'ai signé un papier. Et quelques temps après, il m'a dit, ça y est, j'ai retrouvé exactement, vous avez signé comme vous m'avez dit. Et même, je vais vous donner le nom de vos camarades de la sixaine à laquelle vous avez été affecté, parce qu'on était groupés par tous les groupes de sixaine. Mais déjà, j'avais failli, je lui ai envoyé une lettre un peu verte un coup, en lui disant, vous commencez à me faire chier. Hein. Non, mais s'il faut encore être... J'ai eu la chance d'être déjà interrogé par la Gestapo avant. Maintenant, je suis interrogé par le curé de Malval. M'emmerdez, quoi. Mon père savait où j'étais. Il a été absolument terrifié de voir dans quelles conditions matérielles je vivais. Mais ceci étant dit, il pensait d'ailleurs comme moi qu'ayant choisi ce patelin paumé, perdu, que jamais la Wehrmacht ne viendrait là-bas. Qu'est-ce qu'ils iraient foutre dans ce bled perdu ? Que je pensais que la guerre passerait là-dessus, comme au fond du Sahara, quoi. Hein ? Et il a fallu l'arrivée de ces joyeux copains, parce que moi je vivais avec des repris, certains étaient repris de justice qui se planquaient comme bûcherons pour échapper à la police, d'autres étaient bûcherons parce que pour échapper au STO, d'autres assis à ça. Mais quand le maquis est arrivé, moi j'étais content de rencontrer quand même, si je puis dire, dans ce maquis-là, deux, trois intellectuels avec qui je pouvais parler de peinture, de n'importe quoi, de chansons. C'était traîné à ce moment-là, on chantait traîné. On chantait pas le chant des partisans, on chantait Mamsel et le Clio. C'était comme ça, la résistance, c'était ça aussi. On avait 20 ans.
Mamsel Clio, vous êtes marié. C'est ridicule, avec le fils de ces idiots. Mamsel Clio, votre mari est somnambule. Il se promène sur les toits toute la nuit, tandis que moi, je dors avec vous dans le même lit. Nous rêvons tous deux quand le ciel est gris au fond de la chambre. Votre corps charmant se donne à minuit dans un petit hôtel tout près de la rue de l'Ambre.
Vous évoquez Noël vous en avez parlé dans le
souvenir
livre,
il
a retenu
votre
témoignage.
Oui, parce que j'ai écrit en 45, une petite revue régionale m'a demandé d'écrire un souvenir de maquis. Il savait que j'avais été dans le Vercors. Et moi, je voulais pas raconter des histoires de fier à bras, ni de bagarres, ni de trucs. Et j'ai écrit l'extraordinaire veillée de Noël qui a eu lieu à Malval. Elle a été inoubliable pour tous ceux qui y ont assisté. On peut pas imaginer ce qu'était un Noël de maquisards avec la population, mais fraternellement rassemblés. Chanter, il y avait un petit côté religieux parce qu'il y a eu quand même une messe de minuit, dite par un curé. Et puis on avait mis des grands rideaux, on avait emprunté des draps aux paysans pour fermer le chœur. Puis on avait fait la revue du maquisard. Et puis on avait chanté nos chansons. Et puis tout le monde avait pris. Les paysans étaient venus avec un peu à bouffer. Quoi, c'était extraordinaire. Et ils en ont tous gardé un grand souvenir. Encore ce que je revois les vieux maintenant qui y étaient. Où les enfants des vieux en parlent encore, c'était extraordinaire. C'était peut-être, est-ce le seul Noël de 43-44, donc le Noël fin 43, qui a été célébré par la résistance en France dans des conditions extraordinaires.
Et là, il y avait ceux qui allaient survivre, puis ceux qui allaient mourir.
Ah ben évidemment, le 29 janvier. Mais ça, c'est... Mais qui allait survivre ? On était content de survivre déjà quelques jours, parce que faut pas oublier une chose, c'est que c'est la hantise qu'on a de la rencontre avec les Allemands, avec la Wehrmacht, la hantise, ou même avec la milice n'était pas plus tendre que les Allemands. Hein. Alors, ça vous préoccupe, on a une arrière-pensée en permanence. Si on descend dans la vallée pour faire une course qu'on vous a commandée, ou chercher du ravito, ou aller porter un pli, ou même porter des armes. C'est des choses terribles, quoi. C'est brutal, c'est d'une brutalité auquel on s'y attendait, mais on savait bien. On vit, quand c'est comme ça, on vit avec la hantise de l'affrontement. Mais on finit par s'habituer, quoi. Puis on est jeune, on a 20 ans, alors...
Est-ce qu'on finit par le souhaiter, l'affrontement ? À force de vivre dans l'angoisse, on va être attaqué.
Oui, mais le problème, c'est qu'on se savait trop faible par rapport aux Allemands. La division Plaum, c'était énorme. Et on faisait de l'entraînement fusil-mitrailleur, fallait aller en haute montagne, dans une forêt perdue, on nous entendait depuis la vallée, quoi. Alors, il y avait des miliciens, quand même, dans la vallée, il y avait tout ça...
Chose dont on n'a pas parlé, c'est la radio de Londres. Vous l'écoutiez, vous l'entendiez ?
Ah ben moi, bien entendu, je fais partie de l'innombrable corps de ceux qui n'ont pas entendu l'appel du 18 juin. Hein, il y en a si peu qui l'ont entendu. Mais chez mes parents, on écoutait, en zone interdite ici, et à proximité de la frontière suisse, on écoutait la radio anglaise avec toutes les précautions voulues, quoi.
Et dans le maquis,
on écoutait, on nous tenait au courant des nouvelles, parce qu'il aurait fallu aller chez les paysans qui avaient un poste de radio, et beaucoup n'en avaient pas dans ce coin perdu. Et puis deuxièmement, on nous tenait au courant de l'évolution de l'espérance plus que des événements, parce que si on était encore loin du débarquement, faut pas oublier ça, hein, c'est que en octobre, novembre, décembre 43, et ben les Allemands, ils étaient partout et c'était pas leur pli encore, on n'était pas sûr de remporter.
Le chant des partisans, vous l'avez connu?
Non, alors là, une erreur à corriger, ouais. Le chant des partisans n'a jamais été chanté dans les maquis, ni connu avant la libération de la France.
Il a été diffusé en mai 43 sur Radio Londres.
Oui, peut-être, on ne connaissait pas. Mais il est noté là-dedans, on avait un hymne à nous. Ouais. Nous descendons du cœur de nos montagnes, hors de chez nous, bouter nos occupants. Et retrouver nos villes et nos campagnes, sans Italiens, miliciens, ni Allemands. Écoutez bien notre refrain, garçons de France, la vie est belle, mais ne vaut pas d'être vaincu si vous n'êtes pas rebelle à l'idée d'être vaincu. Et c'est notre copain Kim, c'est un de nos bons copains, qui était bordelais d'origine, mais qui est grenoblois maintenant, qui l'a composé, oui. J'ai le nom de mes copains yougoslaves, parce qu'il m'est arrivé une aventure étonnante. C'est qu'un jour, le capitaine m'appelle, j'étais bon skieur, alors tout le monde a un rôle à remplir, quoi. Alors, on avait beaucoup de... C'était un métier un peu d'étudiants, d'intellectuels, d'étudiants à l'école supérieure d'électricité de Grenoble, des trucs comme ça. C'était pas un maquis. C'était pas le maquis fait avec des paysans qui viennent au maquis, puis ils rentrent le soir chez eux. Nous, c'était un maquis de paumé, quoi. Mais intéressant, et puis avec des gars bien. C'était un maquis qui avait été créé par l'abbé Pierre.
Créé par l'abbé Pierre, ouais. Ça fait comment
le réseau? Le réseau, je ne peux pas dire. Moi, je sais que Malval est connu pour avoir été le maquis de l'abbé Pierre, et puis de Gilbert Weissmann, que je ne savais pas qu'il était même juif, j'appelais Gilbert, quoi. Mais enfin, c'était un truc... Non, on était très patriotes, et puis une mentalité de résistant, quoi. C'est-à-dire que on se méfiait, mais pas assez. Et puis on peut pas trier dans la population, c'est pas... j'ai eu tellement de trucs, alors j'aime pas tellement en parler, mais...
C'est peut-être le moment, quand même.
Hein?
C'est peut-être le moment.
Ben, c'est pourquoi on a fait le bouquin très tard, tout ça, mais c'est peut-être le moment, parce qu'il faut... Mais j'ai laissé quand même un témoignage précis au musée de la résistance de Grenoble, ainsi que les photos que j'avais, mes dessins... j'ai perdu. Ils ont dynamité l'espèce de vieille baraque où je logeais, moi. Et j'avais dans un coin tout mon matériel, des bouquins, puis mon matériel de peinture. Je dessinais de temps en temps. Je restais comme ça, quoi. Et puis, quand ils sont allés relever les morts, après, nous, on s'était égayés, quoi. C'était parti pour la Chartreuse. Les paysans ont ramassé 2-3 dessins. C'est comme ça que j'ai pu en retrouver des dessins que j'avais faits, des dessins anti-allemands. Ça m'étonne d'ailleurs que les Allemands ne les aient pas brûlés, mais enfin, peu importe. Bon, enfin, tout ça, c'était... Mais c'est ce que j'ai vécu de plus intense, et de plus vrai, de plus engagé, quoi. Après, la guerre, comme chasseur alpin, c'était dur aussi, mais enfin, il y avait beaucoup de morts, mais enfin, c'était pas pareil, là, c'était le massacre, quoi. Et alors, par quel phénomène? Alors, ce que j'ai vécu, une chose étonnante, c'est que j'étais bon skieur. Alors, je servais de... Gilbert m'avait dit... votre rôle, c'est d'enseigner le ski à mes Parisiens, là. Ils savent pas, on peut pas rien faire avec eux. On a réussi à récupérer des skis au chantier de jeunesse en pillant un fonds de chantier de jeunesse, bon. Alors, j'enseignais le ski. Et puis, c'était compliqué, bon. Et puis, un jour, il m'a fait appeler, il me dit, on avait une liaison par la ligne téléphonique qui alimentait ce petit village. On avait des correspondants en bas à la poste, bon. Mais on avait une ligne de campagne avec un téléphone militaire de 1940 qui rejoignait le truc avec l'entrée des profondes gorges qui commandent le passage, où on avait toujours un poste de garde qui, là, ils se sont tous battus, mais ils ont tous été tués. Bon. Et cette ligne était coupée par la neige, il y avait une grosse chute de neige, il y avait eu un sapin qui était posé dessus, bon. Et alors Gilbert m'a fait appeler, puis il m'a dit, vous êtes bon skieur, vous allez descendre à la rencontre dans les gorges, vous allez aller descendre jusqu'au poste de garde du Moulin, vous direz à vos camarades que s'il y a un camion qui monte tout à l'heure, il ne tire pas, c'est un camion allemand, mais c'est des déserteurs de l'armée allemande. C'est des, il ne m'a pas dit d'où c'était, il m'a dit c'est des déserteurs de l'armée allemande, mais qui ne sont pas allemands et qui viennent nous rejoindre, avec des armes, avec une mitrailleuse, donc deux fusils mitrailleurs. Alors, moi, ça m'enchantait, quoi. Je suis descendu à ski, je suis arrivé au Moulin, les copains, ils étaient là en poste, ils montaient la garde mollement, parce qu'on n'avait jamais été menacé, rien. Alors, je leur dis, écoutez, s'il y a un camion qui vient, vous bougez pas, hein, c'est... Mais moi, j'avais ordre, ils m'avaient dit, si le camion, ils l'ont pas encore entendu monter dans les gorges, vous allez à sa rencontre, pour faire la contact avec les gars. Et moi, je descends à ski, tout seul, dans les gorges. Et puis, je me retrouve nez à nez avec un camion en panne. Mais les phares, avec les deux petites fentes, vous étiez trop jeune, les petites fentes comme ça bleu. Et puis, des mecs en mitouflé, ils faisaient un froid de canard. C'était début janvier, oui. Alors, ils faisaient un froid de canard. Ils étaient tous en tenue allemande, avec des casques. Et certains des calots. Je me dis, merde, si c'était un piège, je suis foutu, moi. Dans 5 minutes, je suis exécuté, quoi. Alors, je suis arrivé en ski, et puis, ils étaient plongés, il y en avait deux qui étaient dans le moteur, je sais pas s'ils givraient ou un truc comme ça. Alors, le peu d'allemand de collège que je connaissais, je disais, Freunde, ja, Freunde. Et puis, ils me fait signe, bon, ils arrivaient à faire démarrer leur moteur, de monter derrière, où il y avait 8 Allemands en étouffé. C'était tous des Yougoslaves, qui avaient été mobilisés de force, malgré eux, et qui avaient déserté de Grenoble, de la division Flaume, et ils venaient nous rejoindre. Et ils sont restés avec nous jusqu'au massacre, ils ont presque tous été massacrés. J'en ai encore un qui est à Ljubljana, auquel j'envoie un petit mot de temps en temps. Mais c'est peut-être là où j'ai connu le plus l'absurdité de cette guerre. Et eux aussi, parce que on voulait pas les laisser habiller en allemand, mais on n'avait pas de quoi pendant la guerre les habiller. Donc on leur a enlevé les pattes d'épaulette, on leur a enlevé les allemands. Et puis, malheureusement, la résistance du Vercors, l'état-major, le général Leray, se méfie un peu, alors il a donné ordre de ne pas les armer tout de suite. Eux, ils sont venus avec des armes qu'on leur a retirées, qu'on a utilisées nous, mais on ne leur a pas redistribué d'armes. Et quand la division a attaqué, c'était leurs propres officiers qui les ont exécutés. Il y en a un qui a eu le temps de le dire à l'institutrice, elle était ficelée sur un affût de canon, enfin bon, des histoires. Mais j'aime autant pas en parler. Et d'ailleurs, c'était difficile de devenir un résistant total. Je veux dire qu'il n'y avait pas la haine de Pétain, par exemple. Il y avait la haine des Allemands. Mais beaucoup de nos copains venaient des chantiers de jeunesse, d'où ils avaient déserté. Moi-même, j'étais passé comme clandestin dans un chantier de jeunesse. Et j'en gardais un souvenir d'échappatoire. Un truc qui me permettait d'échapper, quoi. Plutôt que d'aller tourner des obus à Nuremberg, hein, puis prendre des bombes sur la gueule. Mais l'amitié de ces âges-là. Parce qu'il y avait tout. Le fait que les gars soient séparés de leur famille, il y avait des bourgeois là-dedans, il y avait des aristocrates, des grands aristocrates, il y avait des gars extraordinaires. Il y avait des paysans, il y avait des ouvriers, il y avait de tout bon, tous des garçons bouchers, tout ça était mélangé, mais tous étaient coupés de leur famille, alors ça faisait tomber les barrières sociales qu'on ressent d'habitude dans toute société organisée, quoi. Alors, en plus, l'anonymat des surnoms et des noms, j'ai mis longtemps avant de savoir pas tous leurs noms.
Et avant cette attaque, vous faisiez que travailler ou vous aviez aussi des activités de partisan?
J'ai fait quelques coups de main, sur un tas de choses.
Sur les Allemands essentiellement?
Pas sur les Allemands, mais sur la voie ferrée, sur du matériel, il fallait se ravitailler. Le ravitaillement, on avait des complices qui ont été fusillés d'ailleurs.
Oui, la population...
C'est juste pour vous dire, voilà, pour éviter toute ambiguïté. Je suis resté très bien avec les quelques surveillants.
La population locale a souvent payé cher son soutien aux maquisards.
Très cher. Et maintenant encore, moi, j'en pleurerai des fois quand je les remercie et jamais ils ne les ont reproché. Voilà.
Mais vous deviez quand même avoir l'idée qu'un peu partout, il devait y avoir des groupes comme les vôtres, non?
Ah oui, oui, mais non, mais puis on avait des relations avec... Par exemple, à côté de nous, il y avait un maquis. Il y avait quand même des nuances politiques. Alors, moi, j'étais dans un maquis qu'on dit de l'armée secrète, quoi, de la S. Mais il y avait un maquis FTP avec qui j'étais très copain, parce que certains des gars du maquis FTP avaient été bûcherons avec moi, donc c'était des frères. Mais quand on se rencontrait après, les deux maquis étaient de tendances politiques différentes. Et il me disait, t'es toujours avec tes culottes de peau, là. C'était rigolo. Et ils sont tous tués. Ils ont tous ont été tués au maquis FTP. Il y a le maquis de Gabi. Malheureusement, tous les, c'est comme je parlais de la résistance, tous les petits, ils sont oubliés, quoi. Mais c'est quand même l'honneur d'un pays d'avoir été, c'est l'honneur d'un pays d'avoir été résistant comme ça. Et même les Yougoslaves qui étaient avec nous, moi je les aimais beaucoup parce que ils avaient d'abord été résistants, ils avaient été faits prisonniers, et puis ils avaient été, malgré eux, comme il y en a beaucoup qui étaient slovènes, ils parlaient l'allemand parfaitement, les Allemands les avaient versés dans la Wehrmacht, et prudemment, au lieu de les laisser dans les Balkans, tout ça, les avaient envoyés sur le front de Normandie, faire de la répression, de la surveillance des fortifications, et puis après, ils faisaient partie de la division Flaum, donc qui était une ville. Eh bien, j'ai toujours eu une certaine sympathie pour ces Yougoslaves-là, à cause de Tito et tout ça. Maintenant, on parle de Yougoslavie, on pense au Kosovo, les gars qui se haïssent, tout ça, mais il faut pas oublier que Tito avait unifié tout ça, hein, et que ça a été un résistant formidable. Les Allemands, ils allaient en baver en Yougoslavie. Alors que je dis ça, je suis pas anti-germanique, moi, hein. Seulement, j'étais anti-clérien, quoi, c'est évident. C'était quand même la honte d'un pays.
Et la scission, comment vous avez vécu cette scission du 20
janvier? Je n'ai rien compris. C'était un problème d'état-major. Il semblerait, peut-être que parce qu'il dit dans son bouquin, que un des fondateurs du maquis de Malval avec l'abbé Pierre, c'était Weissmann, Gilbert. C'était un juif, caché, dissimulé bien entendu, mais un gros industriel, qui a aidé énormément beaucoup de gens à passer en Suisse. C'est co-religionnaire, mais en même temps, c'était un vrai résistant. Et puis, il y avait là-dedans des officiers de cavalerie ou des trucs comme ça, je sais pas comment vous dire, ils n'étaient pas farouchement antisémites, quoi, mais enfin... Ils n'auraient jamais dénoncé un juif, mais il y en a quand même qui y en a un qui a eu des mots malheureux, qu'on ne peut pas citer dans les bouquins, quoi. Qui a dit un jour à un de mes bons copains, à Roger, je ne cite que son nom de maquis, à Roger qui était juif, et qui après le massacre a essayé de le rejoindre pour rentrer dans le sien de maquis. Il a dit, écoute mon petit vieux, t'es bien gentil, mais je ne veux pas être juif dans mon maquis. Ça existait encore, des choses comme ça. Après Malval, ça ne se sentait pas, parce qu'on avait quand même des Israélites avec nous. On le savait ou on ne le savait pas, mais on s'en foutait, quoi. Pour nous, on était des copains, et puis il s'agissait d'échapper aux cheveux, quoi. Puis on vivait dans l'espèce d'obsession que le coin était tellement paumé où on était, que quand les Allemands... Mais on a fait des exercices de défense de nuit, bien, c'était bien organisé, on allait... tiré au fusil mitrailleur au plateau des Coulmes, là, on connaissait bien l'armement et tout, mais on pensait que les Allemands arriveraient à grand bruit et qu'ils ne couperaient pas les cols de repli. Et que donc, nous, notre mission, c'était, la vraie mission des maquis, c'était ça. Hein? Si l'ennemi est plus fort que toi, tu dégages. Bon. Si l'ennemi est plus faible et qu'il se sauve, tu le suis. C'est tout. C'était la seule stratégie. Puis enfin, on n'était pas militaire, hein, à part quelques deux, trois gars qui étaient vaguement caporaux-chef ou sergent dans l'armée d'armistice, mais enfin. Puis les Allemands ont attaqué le 29 janvier, alors après j'ai tous les documents de...
Ils ont fini par attaquer.
Ah oui, ils ont tout brûlé. Alors regardez, l'intérieur de l'église, il y a 27 cadavres de mes copains.
Sur cette attaque, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
On peut dire donc que c'est les horreurs de la guerre, quoi. Je prends le cas de... maintenant, je connais les noms, mais Gertrude, c'est la femme d'un médecin, notre médecin. Notre médecin, évidemment, le seul surnom qu'il avait, c'était Touib, quoi. Hein. Et il s'appelait en réalité Blumenstock, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il était exécuté à Grenoble ou déporté à Auschwitz, bon, il était juif. Je savais, moi, qu'il était juif, parce qu'il me l'avait dit. Et puis, il avait une jeune femme. Alors, Gertrude, il vivait sordidement, il était médecin de notre maquis, quoi. C'était un juif en perdition, avec sa jeune femme, qui était alsacienne d'origine, juive alsacienne, qui s'appelait Gertrude. Et un jour, Blumen, il me dit, alors, tu sais, j'ai dit que ta femme, elle s'emmerde, là. Vous êtes dans votre niche dégueulasse, là, ce chalet dans la paille, là. Il dit, mon, elle pleure tout le temps, elle ne sait pas où est sa famille, elle ne sait pas ce qu'on va devenir, elle a peur. Et elle ressentait bien le truc, hein. Alors, il me dit, tu ne voudrais pas t'en occuper, lui donner des leçons de ski. Je lui dis, si tu veux, s'il y a que ça, j'ai trouvé une paire de skis. Puis j'allais promener Gertrude à ski, quoi. Et puis, c'était drôle parce que c'était une bourgeoise. Elle vivait une déchéance terrifiante pour elle. Alors, elle me disait, écoutez, Pierrot, vous êtes gentil avec moi, vous êtes gentil avec moi. Venez prendre le thé à la maison tout à l'heure quand on rentrera. Prendre le thé à la maison. Dans une casa. Alors elle faisait griller 3 bouts d'orge grillés pour me faire du thé, il n'y avait pas de sucre, il n'y avait rien. Puis je minaudais, moi, comme un petit mondain, quoi. Puis c'est charmant chez vous, quoi. Il y avait des toiles d'araignée partout. Les Allemands m'ont brûlé, c'était des ordures. Avant, elle a eu le temps de retirer son alliance. Parce que dedans, il y avait son prénom et celui de son mari. Elle était avec l'institutrice planquée dans la neige quand ils achevaient tous les gars. Elle a dit, ils vont me tuer. Et... Tu sais, elle a dit à Lisette, c'est la fin, quoi. Alors, elle a dit, pourquoi tu veux jeter ton alliance? Elle dit, parce que je ne veux pas qu'ils la prennent, ni qu'ils découvrent que... Et ils l'ont enfermée avec le père d'Herbet, puis ils ont brûlé la grange. Le fils d'Herbet qui est mort il n'y a pas longtemps, ça. Il m'a raconté, il avait 14 ans à l'époque. J'ai entendu mon père hurler. Il toussait d'abord à cause de la fumée. Et puis après, il a hurlé de douleur, il brûlait, quoi. Puis dedans, il y avait Gertrude. C'est le Hercor, quoi. Ça.
L'institutrice dont vous parlez, elle a survécu, elle.
Oui, oui, elle est actuellement à l'Alpe d'Huez.
Ils n'ont pas.
Ah, elle a eu une aventure encore bien plus terrible. Parce qu'ils l'ont. À la différence des. Elle n'a pas été déportée. Il y a eu 2 autres jeunes filles de 17 et 18 ans qui ont été déportées, qui en sont revenues d'ailleurs. Mais. Elle n'a pas été déportée, ils l'ont gardée. Ils l'ont gardée à la Gestapo de Grenoble. Et elle servait d'appât, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que. Ils l'obligeaient à faire le ménage, à récurer toute la caserne où il y avait la Gestapo et tout. Et puis, il l'obligeait à aller dans les rues de Grenoble principales. Il y avait beaucoup de résistants qui traînaient par là, qui la connaissaient. Et elle servait d'appât, alors. Une ou deux fois, elle a croisé des gars. Lisette, qu'est-ce que tu fous là? Foutez le camp, je suis surveillé, je suis derrière, etc. Si bien qu'à la fin de la guerre, moi j'ai pris sa défense, des gars ont dit qu'elle n'avait pas été ni. On lui a reproché de n'être ni fusillée ni déportée. Et alors, immédiatement, comme c'était une belle fille, ils ont dit qu'elle était la maîtresse du gars de la Gestapo, peut-être c'était quelqu'un dans les Malvelles. C'est moi qui ai pris sa défense.
Dans le livre, ils disent aussi qu'au moment du massacre, vous étiez pas là.
Oui,
vous aviez été mis au vert.
Exactement, je rentrais, moi.
Et vous rentriez juste
on a mis au vert, on devait. C'était une histoire invraisemblable, parce que justement, il y a eu une scission. Moi, j'ai dû suivre le groupe des plus anciens auquel j'étais très attaché, mais. Je comprenais pas, moi je m'en foutais des tenants, des aboutissants d'une scission entre, disons, militaires et résistants.
Il y avait déjà une question première... d'homme aussi, non? Peut-être
une question
le chef
d'homme,
était remis en cause.
Ouais, ouais. Non, mais il y avait déjà on avait le maquis FTP à côté de nous, avec qui on était très copains d'ailleurs. Mais enfin, il y avait déjà des petites. Il y avait des nuances dans la résistance, comme dans toute société. Et donc, moi j'étais allé me mettre au vert chez des amis que j'avais dont j'avais fait la connaissance dans le coin. Et donc en revenant, toujours de façon anonyme, avec mes godasses ferrées, mon béret, mon teint bronzé, et puis mon sac à dos, je ressemblais à un maquisard comme on ne peut pas imaginer, que j'ai appris dans le train qu'un curé m'a...
L'abbé Gaillard, je dis.
L'abbé Gaillard, oui, qui était un résistant. Je me suis rappelé après l'avoir vu à Malval, mais en civil. Et il faisait partie du même réseau, et il y avait beaucoup de monde dans les trains, parce que tous les gens voyageaient avec des paniers de trucs, et puis il y avait des Allemands dans le train, et il est passé vers moi, il m'a dit « Malval ». Et au lieu de répondre « Je ne sais pas ce que vous voulez dire », je lui ai dit « Oui, Malval, je vais à Malval ». Il me dit vous descendez tout de suite, hein, à... Je ne me rappelle plus la station, je le dis d'ailleurs, je ne sais plus à quelle station.
Oui, entre Moiran et Tulin.
C'est ça, entre Moiran et Tulin. Et puis alors il m'a dit, vous m'attendez au bout du quai, j'ai quelque chose à vous dire, il ne faut pas aller à Malval, Il y a un grand risque de vous faire cravater. Bon. Et puis c'est seulement, même là je n'ai pas su ce qui s'était passé à Malval, il m'a dit, démerdez-vous pour aller à pied jusqu'à Vorep, et ce soir dans l'église de Vorep, vous viendrez comme un pieux paroissien, et puis je vous expliquerai. Et je suis à Vorep et il m'attendait. Et il m'a amené à la sacristie où j'ai retrouvé Raphaël, deux, trois copains du maquis, et ils m'ont dit, les Allemands ont attaqué Malval, tous nos copains sont tués, et en grande partie, quoi.
Et quand il vous a dit Malval, vous vous êtes pas dit, c'est un piège, c'est un collabo ou...
Non, parce que lui, je l'ai vu quelque part. J'ai eu confiance. On a confiance quand même des fois. Hein. Heureusement, on peut se tromper, oui, mais enfin bon. Et alors, je suis resté planqué dans la sacristie et je ne pouvais pas aller ailleurs. Les Allemands étaient partout. Bon, et puis, j'étais tellement fatigué, je ne me rappelle plus très bien dans quelles circonstances quelqu'un nous a emmenés. Puis on a monté à pied longtemps, jusqu'en Chartreuse. En Chartreuse, où j'ai rejoint la compagnie Stéphane.
Oui, directement.
Et Stéphane m'a gardé pendant quelques temps. Et puis, j'étais avec un Yougoslave survivant du massacre de Malval, Benno, et puis un autre copain dont j'ai oublié le nom. Et puis alors, il nous a gardé un certain temps, mais on était une charge lourde, parce qu'il n'avait pas assez d'armes pour nous armer. Évidemment, je n'étais pas parti en perme chez les paysans avec une mitraillette puis deux grenades. Bon, alors après, j'étais encore plus paumé qu'avant, quoi. Mais c'était la destinée des gars d'être paumés tout le temps, quoi. Je savais plus ce qu'étaient devenus mes copains de Malval, les morts, je savais qu'ils étaient morts et enterrés. Et puis, alors j'ai dit, moi je vais pas continuer comme ça parce que je vais me faire rafler un séjour. Et je suis remonté par la Savoie, enfin avec des itinéraires de travaillant un coup dans une ferme, accueilli par des braves gens une autre fois. Et puis petit à petit j'ai rejoint la Franche-Comté où je suis re-rentré dans un autre groupement de résistance, évidemment, quoi, au groupement frontière avec...
Vous étiez basé où avec la Franche-Comté avec ce...
Oh, j'étais dans la région frontière ici, on commandait toute la frontière suisse, là.
Ah, ouais.
Le groupement frontière s'appelait pour ça, le groupement frontière. Et alors, ça aurait été pour nous l'occasion de filer en Suisse. Mais c'était le contraire qui se passait. On avait des réfugiés en Suisse qui venaient nous rejoindre. Ça marchait dans l'autre sens. C'était les Allemands qui filaient en Suisse à ce moment-là. Et on essayait de... Enfin bon, c'est très compliqué tout ça. C'est fait de quoi l'héroïsme C'est facile dans les bouquins d'histoire de parler de l'héroïsme, du sens de la résistance, du truc. Mais faut savoir, on n'avait pas de directive, on savait pas. On savait pas comment ça allait tourner. On se demandait si on n'allait pas rester... toute notre vie bûcheron, mais ça me laisse des souvenirs inoubliables de... Je parle pas du côté patriotique, mais du côté aventure. On n'offre pas, tous les gars qui ont 20 ans, on leur offre pas un cadeau aussi dangereux et somptueux que de la résistance comme ça dans des groupes mal organisés, parce que c'était pas encore la grande résistance. Après, on a connu, nous, l'écœurement de voir des maquisards partout. Les derniers jours en 45, quoi. Mais nous, c'était 2 ans, on n'était pas nombreux.
Les autres réseaux de résistance, vous les avez jamais connus? Enfin, les lois de la clandestinité.
J'ai jamais connu les réseaux.
J'ai
jamais connu les réseaux. J'ai connu des grands résistants de Régnès, tout ça, les mecs qui commandaient les maquis du Vercors clandestinement, je les ai connus. Mais avant, je n'ai jamais connu le monde des réseaux dans la résistance. J'ai toujours été de la piétaille, moi. J'étais un maquisard. Que ce soit là-bas, que ce soit à la compagnie Stéphane, ensuite en Chartreuse, que ce soit dans les maquis du groupement frontière dans le Jura, parce que, pour finir, moi je passais souvent de maquis en maquis parce que j'étais une charge. J'étais un survivant de Malval, mais j'avais plus d'armes. Hein? J'avais plus d'armes, on pouvait pas toujours m'armer, on pouvait pas toujours me nourrir. Alors, j'allais d'un maquis à l'autre, bon, et en remontant par tout doucement, comme ça, je suis revenu dans mon cher Jura où là j'étais... Je savais que, quitte à libérer quelque chose, c'était mon pays, quoi. C'était comme ça. J'ai jamais gagné, si on peut dire. J'ai été honnêtement courageux, quoi, jusqu'à la libération, même jusqu'à la libération totale, puisqu'après j'ai été engagé dans les troupes alpines, mais j'étais un piètre vainqueur, quoi. J'étais toujours battu, j'étais toujours menacé, j'étais toujours... à la limite de disparaître, et Mes parents n'avaient aucune nouvelle de moi, ils ne savaient pas. J'en avais pas dû d'un coup.
Vous parliez des gens qui défendaient l'honneur de la France, mais ils étaient
c'est
pas...
C'est des mots qui paraissent un peu désuets.
Ils n'étaient pas nombreux à cette époque-là. Ils sont devenus nombreux après-guerre quand on a glorifié les résistants, mais...
Ah oui, oui, ah, mais on était combien au maquis de Malbal, qui était le premier maquis. On était peut-être, on a la liste là, on a eu 38 morts, je crois. Mais enfin, on devait pas plus de, on n'a jamais été plus de 40, 50, quoi.
Mais vous n'êtes pas un peu ulcéré par cette récupération de la résistance par des gens qui, si la situation se renouvelait aujourd'hui, choisiraient vite leur camp, qui ne seraient pas suivis.
Ah oui, ah ben, ah moi je suis, c'est évident que tous les gars qui prônent un rapprochement ou qui sont des admirateurs de l'hitlérisme, voire de Pétain, me débecquent un peu, quoi. Hein. De l'hitlérisme, absolument. Alors là, ils ne se rendent pas compte que c'était un fou qui a failli détruire l'Europe. Hein. Et qui n'aurait pas hésité à détruire le monde s'il en avait eu la puissance.
Thank you.